Voilà, l'enregistrement commence. Nous allons donc continuer notre parcours. Vous rappelez, justement, nous étions encore à l'ordre qui est arrivé de manière massive, apparemment avec les documents. Et donc, vous vous rappelez, on avait juste regardé ensemble, j'ai peut-être déjà partagé le plan, comme ça on peut faire avoir sous les yeux ce que. Voilà. On était parti à regarder, comme on fait depuis les derniers cours, la partie plutôt l'évolution historique de l'ordre. Et donc, nous avons vu l'importance de l'imposition des mains, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, comme signe, entre autres, parce qu'il y avait d'autres significations, mais une parmi les plusieurs significations, il y avait celle du passage d'une charge, donc le fait d'indiquer quelqu'un pour un ministère, pour une charge au milieu de la communauté, qu'on soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Nous avons vu comment l'Église apostolique, effectivement, saisit ou reconnaît dans ce geste pas seulement la descente de l'Esprit, comme nous l'avons vu pour le baptême, mais aussi justement la transmission d'une charge de la part des apôtres à d'autres disciples à l'époque apostolique. Et le geste on va le retrouver notamment dans un document comme celui de la tradition apostolique, qui le premier document à nous indiquer l'ordination d'un évêque, d'un presbytre, d'un diacre, selon une ritualité assez déjà structurée, ordination d'un évêque qui préalablement a été choisi par le peuple de Dieu, par une église locale, un peuple de Dieu formant l'église locale d'un lieu précis. Et après ce choix, après cette voilà, ce choix, l'ordination en tant que telle, en présence de d'autres évêques proches de l'église locale, et l'évêque était censé prononcer, présider l'Eucharistie, et le premier geste qu'il faisait, c'était celui de proclamer la prière eucharistique, qui est un peu le cœur de l'Eucharistie, et puis de présider l'Eucharistie. Pour le prêtre, le document toujours de la tradition apostolique nous dit qu'il est choisi par l'évêque, et l'évêque lui-même choisit le diacre. Les deux, presbytre et diacre, reçoivent cette ordination par l'imposition des mains de l'évêque lui-même. Et nous avons vu donc comment cette imposition de mains est extrêmement importante à cette époque. Les choses évoluent, on pourrait dire. Est-ce qu'elles se compliquent? Mais je ne sais pas. On pourra en juger d'une manière ou d'une autre, mais il est clair qu'elles évoluent dans la mesure où entre le 6e et le 16e siècle, on voit ce rite qui est très simple être un peu éclipsé par d'autres gestes, d'autres rites qui prennent de plus en plus de place. Ce rite que nous avons appelé, qu'on appelle la tradition des instruments. Alors, je le répète, les instruments ne sont pas des instruments de musique, mais plutôt ce sont des objets qui indiquent la fonction du ministre. Et alors, par exemple, pour l'évêque, ce sera la mitre, la crosse, l'anneau. Pour un presbytre, ce sera le calice et la patène. Pour un diacre, ce sera l'évangéliaire. Donc, l'importance à retenir, c'est que du coup, ces rites prennent beaucoup d'ampleur. Et il cache quelque part le rite originaire qui était celui de l'imposition des mains. D'où la demande déjà du pape Pie XII, donc bien avant le Concile Vatican II, pour qu'on retrouve ce geste fondamental et initial. Et donc nous en étions arrivés effectivement arrivés là, et donc avec les réformes consécutives au Concile Vatican II. Le Concile demande effectivement au numéro 76 de revoir ce rite. Peut-être que je vais vous chercher le numéro. Vous m'attendez Une seconde. Voilà, j'ai pris le texte de la Constitution sur la liturgie et vous pouvez le trouver aussi, je ne sais pas, je ne vous l'ai jamais dit, mais toutes ces constitutions du Concile, vous devez le savoir, vous les trouvez facilement par Internet dans le site du Vatican. Si vous cherchez par exemple Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, simplement, hein, généralement le moteur de recherche vous renvoie directement assez proche du texte. Voilà. Et donc le numéro 76 dit ceci, c'est pour que vous l'entendiez, en 63, le rite de célébration, plutôt les rites des ordinations, donc vous entendez déjà au pluriel, les rites des ordinations, sous le rapport des cérémonies et sous celui des textes, seront révisés. Donc vous voyez, on parle à la fois des cérémonies et des textes. Les allocutions de l'évêque au début de chaque ordination ou consécration peuvent être faites dans la langue du pays. On est encore en train de se demander si on pouvait, pour une ordination, employer la langue du pays. Et là, on dit on peut le faire. Et puis, dans la consécration épiscopale, il est permis à tous les évêques présents de faire l'imposition des mains. Donc, vous voyez, donc, il y a l'idée que s'il y avait plusieurs évêques, ils pouvaient imposer les mains. Alors, on reste un peu sur sa fin par rapport à l'ordination, mais effectivement, nous verrons que le travail qui va suivre cette demande de réviser les rites des ordinations, comme on vient de l'entendre, va aller un peu plus loin, dans le sens de remettre à sa place le rite de l'imposition des mains comme central par rapport à la cérémonie, à la célébration des ordinations. Et par contre, va être mis en deuxième place tout ce que nous avons, l'évolution du rite avait mis en valeur davantage, celui de la transmission de la crosse, et puis de l'anneau, de la mitre, du calice, de la patène. Et donc effectivement, le rituel, donc à partir de 63 ou un peu après, les groupes qui travaillent au rituel des ordinations vont se réunir et ils produisent donc le rituel de l'ordre. Et vous voyez bien, 1968, donc 15 août 1968, il faut signaler que le rituel de l'ordre est le premier rituel absolu à avoir été promulgué en langue latine, naturellement. Et vous voyez bien, c'est toujours très étonnant, 68, le rituel en langue latine, donc comme on appelle l'édition typique, parce qu'il est le modèle. Et puis, il faut attendre pour l'adaptation française 90. Alors, je disais, avec une petite blague, entre 68 et 90, on a quand même ordonné des évêques et des prêtres français. Simplement, on a employé entre 68 et 90 un rituel provisoire ad intérim, vous voyez, qui a permis d'accomplir, mais le définitif, celui qu'on va aussi lire ce soir, je vous l'avais montré peut-être, et celui-ci, vous voyez, le même format de celui du baptême, du mariage, c'est de la génération, une deuxième génération de rituels, justement des années 90, alors que les d'autres, plus anciens, comme celui de la réconciliation ou celui que nous verrons de l'onction des malades, n'a pas encore ce format-là. Et donc, quelles sont on pourrait dire, les caractéristiques principales de ce rituel? Tout d'abord, je commencerai par celui de 1968, c'est-à-dire le rituel latin, et remarquez que le rituel latin avait comme titre de l'ordination des diacres, des prêtres et de l'évêque. Donc, vous voyez, on part du plus petit degré, si on peut dire, c'est pas très joli de dire le plus petit degré, mais le degré initial de l'ordre, et on va vers le degré qui est le plus, le final, on pourrait dire, de l'évêque, celui qui est le plus important pour une église. Encore qu'il ne s'agit pas d'importance, mais dans l'ordre hiérarchique, on pourrait dire. Nous verrons que justement, le rituel français, comme il était indiqué là, vous voyez, choisit de retrouver l'ordre selon la tradition antique, selon celui qui était donné par la tradition apostolique. C'est-à-dire, il met en premier l'évêque, et puis, dans une sorte d'ordre descendant, elle va vers les prêtres et les diacres. Cela montre que l'adaptation française veut, en quelque sorte, renouer encore plus davantage avec la tradition. Il faut dire que parmi ceux qui ont travaillé à l'adaptation française, surtout au début et surtout au Concile, il y avait un bénédictin belge, Bernard Bot, qui était vraiment un spécialiste des prières d'ordination, et donc il a probablement influencé ou donné une certaine impulsion à l'adaptation du rituel de la langue latine à la langue française. Et alors, quelles seraient les caractéristiques principales de ce rituel? Alors, d'abord, on peut remarquer par rapport au rituel qui précédent, c'est celui qui était employé avant le Concile Vatican II, que la première caractéristique est celle de la simplicité, comme il fallait s'attendre. Il est très sobre, il est très reconnaissable, nous le verrons quand nous travaillerons la célébration elle-même. Effectivement, si on compare le rituel issu du Concile Vatican II, on peut constater que le déploiement cérémoniel du Moyen Âge est mis de côté et on va plutôt mettre en avant justement la sobriété qu'on avait vue tout au début de l'Antiquité chrétienne. Puis on remarque aussi qu'une bonne partie des rites justement médiévaux va être supprimée. Donc, on va supprimer des rites qui, je vous l'avais peut-être expliqué, ne pensez jamais, et c'est une des critiques qu'on fait parfois à la réforme liturgique, ne pensez jamais que ceux qui ont travaillé à ces rituels aient jeté à la poubelle des pratiques ou des rites. Simplement, le principe de la réforme était celle de dire: regardons ce qui a été accumulé tout au long de l'histoire et enlevons ce qui était de l'ordre d'une accumulation de rites et qui ne permettait plus de voir quelle était l'origine première, et retrouvons, comme quand on restaure un tableau, comme quand on restaure une mosaïque, vous voyez, retrouvons les couleurs initiaux, les couleurs initiales, ou bien la ligne initiale de la ritualité. Et donc, le groupe qui travaille sur le rituel va justement supprimer une bonne partie des rites médiévaux qui avaient un peu comme éclipsé l'imposition de mains, et on va renoncer à certaines prières qui s'étaient à nouveau accumulées au formulaire originaire de tradition romaine. Hein, voilà, donc on va trouver un peu la beauté d'autres prières. Et la chose la plus importante, nous le verrons dans la célébration, tout est recentré sur l'imposition des mains et sur la prière consécratoire qui accompagne l'imposition des mains, précédée, imposition des mains et prière consécratoire, de la prière commune de toute l'assemblée. Ça, c'est très important. Alors, il faudra, nous le verrons de plus près, pendant qu'il y a la prière consécratoire, l'imposition des mains de la part des évêques, c'est pour un évêque, ou de l'évêque pour des prêtres, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a la prière silencieuse du peuple de Dieu. Donc, comme dans une sorte, je dis bien comme dans une sorte, mais on pourrait volontiers dire que c'est cela, comme une sorte de concélébration du peuple de Dieu avec les ministres ordonnés, ou disons, une participation à la consécration des ministres ordonnés. Justement, à cause de cette participation du peuple de Dieu, même pendant la célébration, on insiste, le rituel insiste dans ses notes doctrinales et pastorales pour que les ordinations aient lieu avec la participation du peuple. C'est-à-dire, les ordinations, vous l'entendez bien, puisqu'on ordonne des ministres qui seront destinés à accompagner, à guider, à servir le peuple de Dieu, ce serait quand même assez étonnant que le peuple de Dieu ne soit pas présent à cette ordination. Et donc, le rituel demande que les ordinations aient lieu avec la participation du peuple, à nouveau un dimanche ou un jour de fête. Ce serait très intéressant. Vous êtes vous-même désormais capable de, en vous rappelant ce que nous avons fait précédemment, de vous rappeler que tous les rituels insistent pour qu'il y ait une participation du peuple. Pensons au baptême, que ce soit des adultes ou des petits-enfants, on demande que l'assemblée soit présente, que ce se fasse un dimanche. Ben, l'Eucharistie est évident, le lieu principal de sa célébration est le dimanche, jour du Seigneur. Quoi encore, la confirmation, on demande que soit faite un jour de fête. C'est moins évident et même c'est normal pour la réconciliation. Quoi encore, oui, je pense que c'est voilà, ce sont ces sacrements-là qui sont les plus. Et pour le mariage, bon, le mariage peut-être n'est pas indiqué un jour de fête, mais on demande que la famille et les amis entourent les mariés. Donc, vous voyez, il y a toujours l'idée qu'il y ait une présence du peuple de Dieu qui indique l'importance des fidèles comme étant eux qui forment l'Église. Je vous renvoie là au cours que vous avez suivi sur l'ecclésiologie au premier semestre, hein, mais la liturgie est par excellence le lieu qui manifeste l'Église. Le grand Yves Congar, le grand théologien français, avait écrit un article de recherche assez conséquent, je crois une quarantaine de pages, sinon 50, dans laquelle il avait intitulé l'article L'Église, sujet intégral de la célébration liturgique. Vous voyez? L'Église, sujet intégral. C'est le premier sujet d'une célébration liturgique n'est pas le prêtre, n'est pas, vous voyez, c'est l'Église. L'Église en tant que nous célébrant. Voyez? Et donc, cette idée que, aussi pour l'ordre, on demande que le peuple de Dieu soit présent montre bien l'importance du peuple de Dieu dans cette célébration. On va aussi, parmi les caractéristiques principales, c'est qu'on va unifier le vocabulaire concernant l'ordre, parce qu'effectivement, le terme ordination s'applique à la fois pour l'ordination de l'évêque, du prêtre et des diacres, pour dire l'ordination des trois ordres, vous voyez dans les trois ordres, mais aussi pour appeler la prière d'ordination, dans la prière consécratoire. Peut-être que je vous lirai une partie d'une des prières, et est appelée prière d'ordination. Donc, vous voyez, le mot sert à la fois pour dire à quoi est destiné ce sacrement, l'ordination d'eux, mais aussi la prière d'ordination. Et puis, autre chose importante, nous allons le voir un peu comme pour tous les rituels, je dirais même jusqu'aux bénédictions, qui ne sont pas des sacrements, mais toute bénédiction et tout sacrement, à plus forte raison, le choix du Concile Vatican II était celui de situer le sacrement, donc dans le cas précis l'ordination d'un évêque, d'un prêtre, d'un diacre, après la liturgie de la parole. C'est toujours après la liturgie de la parole. Nous en avons parlé assez profondément la dernière fois par rapport au marié, au mariage. Je vous avais dit comment c'était important, cette place de la parole de Dieu, du sacrement du mariage après la parole de Dieu, parce que cette place que trouve le sacrement après la parole de Dieu montre bien le caractère dialogal de tout sacrement. On célèbre le sacrement parce qu'on est appelé par Dieu, parce que Dieu appelle, voyez. Donc que ce soit le baptême, que ce soit la confirmation, que ce soit la réconciliation, peut-être que nous l'avons vu, nous l'avons souligné, c'est le sacrement le plus, le cendrillon des sacrements par rapport au lien à la parole de Dieu, surtout quand il est célébré individuellement. Mais sinon, tous les autres sacrements, justement, mettent la parole de Dieu comme précédant le rituel, la célébration du sacrement en tant que tel. L'autre chose aussi, c'est qu'on verra que le rituel français préfère situer le début de l'ordination dès l'ouverture de l'Eucharistie. Je vous montrerai tout à l'heure dans le tableau qu'on a distribué sur la célébration. Mais je voudrais maintenant qu'on lise ensemble les notes doctrinales et pastorales. Donc là, je suis dans le texte, dans le polycopié, dans le scan du rituel lui-même. Donc vous voyez bien l'ordre suivi par l'adaptation française, l'ordination de l'évêque, des prêtres et des diacres. Bien naturellement, cet après-midi, on m'a poser cette question que peut-être, donc je la précède si quelqu'un d'entre vous l'a, avant de poser des questions tout à l'heure, ils m'ont demandé pourquoi il y a évêque au singulier, les autres sont tous au pluriel. Vous voyez, parfois on n'y pense pas assez. Alors du coup, j'avoue, il faudra que je me confesse la prochaine fois, mardi prochain, face à tous les étudiants de l'après-midi. J'avais répondu ceci, mais j'ai vu que ce n'est pas très exact. J'avais dit parce que généralement, j'avais répondu, il y a l'ordination d'un évêque, et c'est toujours, il n'y a qu'un évêque et pas plusieurs évêques. Et non, j'ai vu dans le rituel qu'il peut y avoir des ordinations de plusieurs évêques. Donc, ce n'était pas la bonne réponse. Et la réponse, me semble-t-il, est plutôt ecclésiologique. Il n'y a pas dans un diocèse plusieurs évêques. Il y a toujours un seul évêque. C'est-à-dire, l'évêque, même s'il y a trois évêques à être ordonnés dans une cérémonie, ils seront envoyés dans des lieux différents pour être évêques. Vous voyez, il n'y a qu'un seul évêque à la tête d'un diocèse, mais il peut y avoir plusieurs prêtres et il peut y avoir plusieurs diacres. Vous voyez, il y a une sorte de unicité du ministère épiscopal et une pluralité du point de vue du nombre des ministères. C'est là la réponse à donner. Et donc, voilà. Donc, ce que je voudrais, je me attarder avec vous parce que le rituel de l'ordination de l'évêque, des prêtres et des diacres est l'un des rituels, je dis bien l'un des rituels parce que pas tous les rituels font comme ça, qui comporte une lettre apostolique signée par le pape lui-même. Alors, bon, là, vous retrouvez donc toutes les tampons, si je peux dire, possibles. Hein, donc, on a là les différentes dates de promulgation. On a les décrets de la Congrégation pour le culte du vin. À l'époque, on l'appelait encore Congrégation plutôt que dicastère. Et puis donc, on va trouver la lettre un peu plus loin, Constitution, elle est apostolique pontificalis Romani Reconitio. Alors, on en avait parlé, il me semble, mais maintenant, vous savez, presque 10 cours sont loin, donc je ne sais plus de quoi on a parlé. Mais si je vous l'ai déjà dit, ça ne fait pas de mal de le redire. Hein. Pas tous les rituels sont accompagnés d'une lettre apostolique du pape. Généralement, et on peut le remarquer, le pape accompagne, rétient qu'il faut accompagner la promulgation du rituel d'une de ses lettres. On peut remarquer quand les rites sont vraiment, comment dire, reçoivent une transformation assez importante, voyez. C'est le cas, alors on l'a vu pour la confirmation, vous vous rappelez, on le voit pour ce rituel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, d'emblée, ce qui va être éclipsé, entre guillemets, mais s'il n'est pas vraiment éclipsé, c'est la tradition des instruments. alors qu'on va mettre en valeur l'imposition de main. Alors imaginez-vous, nous sommes là en 68, en gros, si on pense à la première édition en latin, eh bien le pape est en face de toute une génération de prêtres qui ont été ordonnés avec le geste, avec les autres gestes, et puis l'imposition. Donc il faut qu'il appuie de son autorité, et nous le verrons comment il pèse tous les mots, pour appuyer de son autorité cette réforme, cette redécouverte de l'imposition des mains. Et donc, je fais toujours remarquer la beauté avec laquelle le pape s'appelle lui-même à cette époque, Paul évêque, serviteur des serviteurs de Dieu pour perpétuelle mémoire. Donc, vous voyez, il s'appelle pas pape, vous voyez, il ne dit pas Paul pape, mais Paul évêque, comme le pape François s'est présenté le soir de son élection. Vous vous rappelez, je suis l'évêque de Rome. Et puis l'expression qui est une expression de l'Église ancienne, hein, serviteur des serviteurs de Dieu. Et puis donc, il rentre dans le sujet et donc il montre ce que nous avons dit ce soir, que le Concile a ordonné de modifier les rites des ordinations, soit quant aux cérémonies, soit quant aux textes. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure auquel le pape renvoie. Et puis il dit donc que la consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d'enseigner, de gouverner, lesquelles cependant, par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège de ses membres. Donc on dit bien que l'idée de la charge de sanctification et celle d'enseigner et gouverner est vécue en communion avec tous les évêques, voyez. Et puis on dit bien que la tradition qui s'exprime surtout par les rites liturgiques et par l'usage de l'Église, tant orientale qu'occidentale, montre à l'évidence que par l'imposition de mains et les paroles consécratoires, la grâce de l'Esprit-Saint est donnée. Et puis, on insiste sur un autre aspect dont on pourra parler, si vous voulez. On en a parlé cet après-midi. Si ça vous intéresse, je vous dirai comment on en a parlé. On ajoute le caractère sacré imprimé. Ça, c'est typiquement propre à la théologie catholique, je vous fais remarquer. Par exemple, il n'est pas présent cette idée d'un caractère spécifique à l'évêque ou au prêtre donné par l'ordre. Les orthodoxes n'ont pas ce type de vision, hein, par exemple, encore moins les protestants qui vivent autrement le ministère du pastorat, du fait d'être pasteur. Eh bien, ils continuent de telle sorte que les évêques, d'une façon éminente et visible, jouent le rôle et tiennent la place du Christ lui-même, maître, pasteur et pontife. Et donc, là, on en était à l'évêque, et puis on en arrive au prêtre. En ce qui concerne le prêtre, il faut rappeler sur tout ceci dans les actes du deuxième concile, tout en n'ayant pas la charge suprême du pontificat, c'est-à-dire de l'épiscopat, et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale. L'idée d'être unis dans la dignité sacerdotale, ouais, mais on peut à côté l'idée que je vous ai donnée, qu'il y aurait comme une sorte de progression vers un peu plus haut, non, il y a une même dignité, il y a des charges différentes, vous voyez, mais il y a sûrement une hiérarchie. Dans cette hiérarchie, dans cette structuration de la ministérialité, les évêques sont les premiers parce que c'est eux qui guident un diocèse. Mais il y a une même dignité sacerdotale, et puis on dit, par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ prêtre suprême éternel, ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile, pour être les pasteurs des fidèles, célébrer le culte divin, un vrai prêtre du Nouveau Testament. Et puis, à nouveau, vous voyez, on insiste, il a paru nécessaire de ramener à une plus grande unité tout le rite qui, auparavant, était distribué en plusieurs parties, et de mettre plus vivement en lumière la partie centrale de l'ordination, c'est-à-dire l'imposition des mains et la prière consécratoire. Oui, on retrouve la même idée que pour les évêques. Et puis, on dit, en ce qui concerne les diacres, j'y reviendrai quand on parlera. Vous savez, bon, je peux déjà en parler. Vous savez que, à la différence du ministère de l'évêque et le ministère du prêtre, qui était et restait dans un continuum, dans une continuité pendant les 2 millénaires de l'Église jusqu'au Concile Vatican II, le ministère du diacre avait été lui aussi éclipsé dans la pratique. Il n'était plus mis en valeur. Il y avait naturellement une fonction diaconale au cours de la célébration de la messe, mais assez souvent était exercée par un prêtre qui s'habillait en diacre, qui jouait le rôle du diacre, vous voyez. Mais il n'y avait pas un vrai diacre dans la célébration. Et donc, le Concile Vatican II retrouve la figure du diacre. Et il va le remettre en fonction, je dirais, même du point de vue liturgique. Alors, nous verrons la distinction entre diacre permanent ou diacre en vue du sacerdoce. Ce sont deux figures diaconales différentes. Et parmi les diacres permanents, il peut y avoir des diacres permanents mariés, mais il peut y avoir des diacres permanents célibataires. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. On pourra en parler peut-être si vous êtes intéressé. Des plus amples explications. Mais donc, voilà, on retrouve donc dans les trois ordres connus depuis l'Antiquité, celui du diaconat, et on dit bien, dans l'ordination diaconale, il y avait peu de choses à changer, compte tenu soit des règles récemment établies, vous voyez, parce qu'elles sont établies récemment, au sujet du diaconat comme degré propre et permanent de la hiérarchie dans l'Église latine, soit du progrès à réaliser dans la simplicité et la clarté des rites. Et donc, dans la révision du rite, il a fallu procéder à des additions, à des suppressions, à des modifications, soit pour restituer les paroles conformément au texte ancien, soit pour rendre les expressions plus claires, soit pour mieux exposer les effets du sacrement. Donc, c'est là la finalité des changements ou des réformes, comme on les appelle, du rite. Et vous voyez bien, c'est le but final, c'est pour les rendre plus vives, plus compréhensibles, plus intelligentes. C'est pas enlever pour enlever. Et donc, voilà, à la fin, le texte dit ce rite, donc. Pour la collation, c'est un terme technique qu'on donne, hein, des ordres du diaconat, des presbytérats, de l'épiscopat, révisés par le Conseil pour l'application de la Constitution de la liturgie, en faisant appel à des experts et consultant des évêques de diverses régions, nous-mêmes l'approuvons, nous-mêmes le pape, hein, l'approuvons de notre autorité apostolique afin que dorénavant, à la place du rite qui se trouve encore dans le pontificat romain, il soit employé pour conférer ses ordres. Vous voyez, tout le poids d'un texte comme celui-ci pour pouvoir permettre ce type de changement et ce type de réforme. Et puis donc, les préliminaires généraux vont parler, comme les autres notes doctrinales pastorales, les préliminaires généraux font habituellement, vont rentrer dans l'intelligence théologique du sacrement lui-même. Et là, vous voyez, on commence par une vision qu'on appellerait plutôt ecclésiologique, qui me semble très intéressante. C'est une clé que les ecclésiologues, c'est-à-dire les théologiens qui travaillent au mystère de l'Église, avancent. C'est celle de dire que par l'ordination, certains fidèles sont institués au nom du Christ et reçoivent le don de l'Esprit Saint pour être, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église. Ça, c'est très important. C'est la distinction entre tous et quelques-uns. Et tous, nous sommes baptisés. Un évêque a été d'abord baptisé, donc tous, nous sommes baptisés. Mais il y en a quelques-uns, donc certains fidèles, qui sont choisis ou qui sont appelés, c'est plutôt juste dire ça, au service d'un ministère spécifique comme celui évêque, de prêtre ou de diacre. Et donc, le texte continue en disant, c'est ainsi que le ministère ecclésiastique institué par Dieu est exercé dans la diversité des ordres, parce que déjà depuis l'Antiquité, on appelle évêque, prêtre et diacre. Et le texte, je vous fais remarquer, renvoie toujours à la constitution dogmatique sur l'Église. Donc, voyez l'arrière-fond théologique, effectivement pris de la constitution sur l'Église. Et puis, on va donc insister sur l'importance de la célébration. Et là, on va souligner que l'imposition des mains, la prière d'ordination sont l'élément essentiel de chaque ordination. C'est la prière même de bénédiction et d'invocation qui détermine la signification de l'imposition des mains. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous le verrons peut-être par des exemples. Que naturellement, la prière de consécration qui accompagne l'imposition des mains change par rapport à certaines paroles, à certaines manières d'être formulées, qu'on soit dans une ordination d'un évêque ou de prêtre ou de diacre, naturellement. Il n'y a pas une même prière pour les trois ordinations. Et puis, voyez, le texte rappelle ce que je vous avais déjà évoqué. L'ordination doit être célébrée au cours d'une messe solennelle à laquelle les fidèles, surtout le dimanche, participent activement. L'idée d'activement, à nouveau, c'est qu'il faut qu'ils soient présents dans la participation liturgique, et nous verrons de quelle manière. Et il y a cette expression magnifique, auprès de l'autel unique où préside l'évêque, entouré de son presbytérium et de ses ministres. Hein? Donc il y a l'idée vraiment de l'Église rassemblée dans un seul lieu. Et donc, après, on souligne un autre aspect très important, l'intime liaison de l'ordination avec la célébration de l'Eucharistie est opportunément manifestée non seulement par l'insertion du rite à l'intérieur de la messe, par les formules propres dans la prière eucharistique et dans la bénédiction finale, mais aussi par le choix des lectures, l'utilisation de la messe rituelle, et ainsi de suite. Et puis la question des adaptations dans les différentes régions, et je vous ai mis pour chaque, on va pas le lire ensemble, mais si vous voulez approfondir l'un ou l'autre aspect de l'ordre, vous pouvez continuer pour voir effectivement l'évêque, le presbytre et le diacre. Je voudrais maintenant qu'on rentre justement dans l'intelligence de la célébration et qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la célébration nous dit, donc de quelle manière la célébration confirme ce que nous venons de découvrir dans à la fois l'évolution du sacrement de l'ordre, mais aussi la théologie que l'on vient un peu de mettre en valeur. D'abord, voilà, il avait été dit l'importance de l'Eucharistie comme lieu hein, dans lequel se situe l'ordination. Et là, dans cette colonne de gauche, vous voyez bien que la structure de la célébration ne fait que suivre celle de toute Eucharistie, avec l'ouverture de la célébration, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement, au sens du sacrement de l'ordre, à proprement parler, la liturgie eucharistique et la liturgie de conclusion. La liturgie eucharistique au sens qu'on poursuit l'Eucharistie par la liturgie eucharistique à proprement parler. Et donc, je vous propose, comme je le fais aussi avec le groupe de l'après-midi, de regarder cela de manière horizontale, c'est-à-dire on commence par une des sections rituelles et on va voir qu'est-ce qu'on fait pour l'évêque, pour le prêtre, pour les diacres. Et donc, si je regarde l'ouverture de la célébration, qu'est-ce que je constate? Bon, que tous ont toujours la salutation. Bon, c'est le Seigneur soit avec vous. La salutation la plus ample, c'est la paulinienne, qui est toujours une salutation je vous fais remarquer, dit l'importance de la présence du Christ au milieu de ses fidèles. Hein. C'est-à-dire que cette salutation n'est pas simplement la salutation que celui qui préside la célébration dit à ses fidèles, mais c'est pour manifester dans cette salutation la présence de Dieu lui-même, du Christ lui-même au milieu de l'assemblée célébrante. Et puis voyez, pour l'évêque, il est dit présentation du prêtre, parce qu'avant d'être évêque, il est prêtre, choisi pour l'épiscopat, et le rituel, l'adaptation française dit bien, quelques membres du peuple chrétien peuvent présenter brièvement le futur évêque. Alors vous voyez, ça c'est très important. Pourquoi? D'emblée, qu'est-ce que ça nous rappelle, me semble-t-il? C'est l'indication que donnait la tradition apostolique quand il disait ce premier document que nous avons cité dans l'évolution, qui disait entre le 3e et le 5e siècle que c'était le peuple qui choisissait l'évêque. Hein? Et donc, c'est pas, naturellement, c'est pas le peuple qui a choisi l'évêque. On pourra parler de la manière dont on choisit un évêque, mais c'est sûrement rituellement, le rite veut dire cela. C'est le peuple chrétien qui présente le futur évêque. Alors, qui sont ces chrétiens, ces membres du peuple chrétien? Ça peut être parfois les membres qui ont connu le prêtre hein, là où il a exercé son ministère auparavant, ou bien c'est peut-être aussi avec les fidèles, quelques fidèles de ceux pour lesquels l'évêque va devenir évêque, justement. Et donc, cette idée est très importante. Et après, va avoir lieu, on ne le trouve pas pour les autres ordinations, la lecture de la lettre apostolique. Qu'est-ce que c'est cette lecture de la lettre apostolique pour ceux qui n'auraient jamais participé à une ordination d'évêque? Pour dire le fait que c'est le pape lui-même qui choisit les évêques partout dans le monde, le pape envoie pour l'ordination une lettre. Alors, ce n'est pas une lettre. Un papier en format A4, vous voyez, c'est un parchemin écrit à la main, alors pas par le pape naturellement, mais pour un scribe, et qui, généralement dans la langue locale, donc parce qu'il va être lu dans la langue vernaculaire du lieu où l'évêque est ordonné, et dans lequel le pape tutoie le candidat à l'épiscopat, lui dit. Cher Mathieu, je viens de te nommer évêque de l'église locale qui est, je sais pas quoi, à Montpellier. Vraiment, je te demande d'exercer ton ministère dans la miséricorde, tout ce que vous voulez. Et naturellement, il n'y a pas un modèle. Hein. Le pape adapte pour chaque évêque cette lettre qui dit le lien de l'évêque, un peu ce que nous avons vu dans notre doctrinaire pastoral, de l'évêque au siège de Rome et par le siège de Rome à l'ordre des évêques, voyez. Donc il y a là l'idée que par cette lettre le pape inclut l'évêque qui va être ordonné dans la dimension de la ministérialité de l'Église catholique, voyez. Donc il y a là vraiment le lien étroit. Et puis vous voyez, on pourrait dire ça suffit. Eh bien non, il y a l'acquiescement de l'assemblée. Il y a l'acquiescement de l'assemblée. Alors on pourrait voir qu'est-ce que ça veut dire l'acquiescement de l'assemblée. C'est simple, parfois il est dit, et donc c'est par effectivement une acclamation, un chant, voyez, qui permet de montrer cela. Et puis donc la prière d'ouverture qui ouvre la liturgie en tant que telle. Alors, cet après-midi, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de. Alors, j'ai bien dit que tout le monde soit au courant de la manière dont on choisit un évêque, justement. Ce n'est pas le peuple de Dieu, même si je vous dis que cette dimension rituelle montre qu'on veut dire cela. Mais quelle est la procédure pour choisir un évêque actuellement dans l'Église catholique? Alors, généralement, c'est le nonce d'un lieu spécifique qui va mettre en marche le protocole pour le choix d'un évêque dans une église locale. Alors du coup, il va envoyer un questionnaire à plusieurs personnes qui ne sont pas seulement du clergé, mais qui peuvent être à la fois des laïcs, des personnes plutôt des clercs, des personnes qui ont pu connaître le nom de celui qu'on pense pouvoir être un candidat à l'épiscopat. Et donc, on remplit ce questionnaire sous secret. On est obligé, le droit canon, il y a comment on peut dire ça, des indications très fermes qu'on ne peut pas révéler ce qu'on a dit et qu'il faut détruire ce questionnaire pour qu'il y ait une certaine, voilà, une certaine secret et attention à ce que l'on dit. Et donc, après ce questionnaire, les questionnaires vont être envoyés à la nonciature et là, on commence à voir qui et comment choisir. Et généralement, parmi trois noms, on va choisir un seul, vous voyez. Et donc, après avoir choisi cette personne, on l'indique au pape qui avale ou non ce choix et du coup, le nom va être rendu public. C'est comme ça que, alors, on peut dire, c'est pas exactement comme on a vu dans la tradition apostolique, mais c'est pas trop loin au sens qu'un questionnaire, aujourd'hui, on n'est plus dans une église locale petite, on est parfois dans des églises locales qui sont énormes. Du coup, peut-être ça permet ça. C'est pas exactement le même éthos, mais ça permet effectivement de dire qu'il y a une participation de certains membres de l'Église pour pouvoir choisir l'évêque. Voilà. Naturellement, pour un prêtre et les diacres, ce sera l'évêque qui préside à l'Église, qui choisit le prêtre et qui choisit aussi les diacres. Donc, quand nous regardons l'ordination des prêtres, vous voyez que du coup, on a la salutation, l'appel des candidats. Alors, le rituel ne dit rien du fait que quelques membres du peuple présentent le prêtre, le futur prêtre. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Dans des ordinations de prêtres, il peut arriver que les laïcs de la paroisse ou par exemple le diacre, celui qui était diacre, qui va devenir prêtre à exercer, puissent dire une parole dans laquelle ils témoignent de la manière dont celui qui va devenir prêtre a exercé son ministère de diacre. Voyez. Donc, il peut y arriver qu'on peut insérer là, un peu comme on le fait pour l'évêque, un mot pour celui qui va devenir prêtre. Et à nouveau, après l'appel des candidats, le peuple, l'assemblée tout entière va acquiescer, va acquiescer. Il y a à nouveau, vous voyez, une sorte de relation entre le choix que l'on fait du candidat au ministère et le oui de l'Assemblée. Vous voyez, il y a quand même ça à retenir. Hein. Un peu comme pour le mariage, on pourrait s'attendre. J'ai jamais vu ça et jamais entendu que cela soit devenu quelque part, encore que je ne connais pas toute la catholicité et l'Église catholique, mais pour y arriver, quelqu'un de l'Assemblée dit « Non, non, je suis pas d'accord. Écoutez, je témoigne de quelque chose qui s'est passé et qui marche pas trop bien. » Et donc, vous voyez, l'idée de l'acquiescement est vraiment le fait de dire qu'on ne peut pas faire une ordination sans le peuple de Dieu. Ça, c'est très important. Hein? Et la ritualité le dit. Hein? Et puis donc, la prière d'ouverture. Pour le ministère des diacres, on a la salutation, l'appel des candidats, comme on vient de le voir aussi pour le presbytère. Mais vous voyez qu'après, j'ai mis deux fois trois, simplement parce qu'il peut y avoir, le rituel prévoit ceux qui s'engagent au célibat. Généralement, ce sont les séminaristes qui sont destinés à devenir prêtres, hein, et donc ce sont les candidats non mariés. Ou bien ceux qui sont déjà mariés. Et donc, le rituel dit qu'il faut s'adresser aux épouses des futurs diacres. Vous voyez bien que là, c'est une nouveauté absolue dans la ritualité de l'Église latine. On n'a jamais connu cela. Je vous fais remarquer, dans n'importe quel rituel, bien avant le Concile et bien avant peut-être même 30, le fait que les épouses soient interpellées, les épouses des futurs diacres, et peut-être que vous le savez, mais un homme marié ne peut pas commencer un cheminement de préparation au diaconat, et ne peut pas même pas être appelé au diaconat si l'épouse n'acquiesce pas d'emblée. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait l'accord de l'épouse. Il y a là quelque chose à chercher du ministérialité partagée, une quasi-ministérialité partagée par la présence des épouses ou des hommes mariés qui deviendront diacres. Et donc, à nouveau, l'acquiescement de l'assemblée et la prière d'ouverture. Et puis, on en arrive, donc, bon, la liturgie de la parole, comme on vient de le dire au début du cours, doit être caractérisée, si je peux dire, par des lectures propres qui signifient ce qu'on est en train de célébrer. Et puis, vous voyez, la liturgie du sacrement à proprement parler, pour tous les rituels, est toujours précédée du Veni Creator Spiritus, c'est-à-dire l'hymne très ancien de l'époque grégorienne, du premier millénaire. C'est un texte qui a été composé au premier millénaire, autour du 9e, 8e, 9e siècle, et donc chanté aujourd'hui aussi en langue vernaculaire, qui invoque la venue, la présence de l'Esprit pour justement pour rendre dynamique l'action et pour consacrer celui qui va être appelé au ministère d'évêque, de prêtre ou de diacre. Vous voyez, j'aime bien un peu comme on l'a vu avec les mariés, dans le mariage. Du coup, le futur évêque, le futur presbytre, le futur diacre, un peu comme le pain de l'Eucharistie. On invoque sur lui l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a quelque chose à penser à cela. Il y a une analogie à faire entre ce que l'on fait dans l'Eucharistie et ce que l'on fait au moment de l'ordination ou du mariage, parce que la bénédiction nuptiale, nous l'avons vu la dernière fois, est d'ordre épiclétique et dit la même chose. Et donc, il y a là l'invocation de l'Esprit, c'est lui qui sanctifie, hein, et donc, après ce chant de l'Esprit Saint, il y a, vous voyez, pour tous les trois ordinations, l'engagement dans le ministère que l'on doit exercer. Et puis, la supplication litanique, derrière l'expression supplication litanique, c'est la litanie des saints, hein, donc, que nous chantons habituellement la nuit de Pâques, mais dans le cas spécifique, elle est située là. Et toujours, j'aime bien rappeler que la litanie des saints, qui commence par la Vierge Marie, en passant par les apôtres, les prophètes, jusqu'au saint d'aujourd'hui, dit bien le lien entre l'Église de la terre qui est en train de célébrer et l'Église du ciel. Donc il y a là une unité de l'Église, de la communion des saints, rassemblée dans la célébration pour cette ordination. Et donc il y a vraiment la présence de l'Église totale, on pourrait dire, de l'Église tout entière. Voilà. Et puis donc, vous voyez bien, pas difficile de voir, on a tellement insisté sur le fait qu'il faudrait découvrir les positions des mains, et là on a donc imposition des mains et prière, imposition des mains et prière, imposition des mains et prière. Naturellement, cette imposition des mains change, que ce soit pour les évêques, parce que ce sont des évêques qui imposent les mains sur le futur évêque. Là par contre, c'est l'évêque en premier du lieu qui impose les mains sur le prêtre, et puis ce seront tous les prêtres présents qui vont imposer les mains sur le prêtre ordonné. Et là, ce sera simplement l'évêque qui va imposer les mains pour le diacre. Et particularité, on a retrouvé le geste, et là, ce n'est pas une accumulation de rites, mais c'est une redécouverte de quelque chose qui avait été oublié. Le fait que l'imposition des mains et la prière va être faite pendant que des diacres, généralement, si on est dans une cathédrale, tiennent ouvert l'évangéliaire. Vous voyez, c'est comme si on ouvrait l'évangéliaire et on le tient ouvert sur la tête de l'ordinant. Et le geste est magnifique si vous y réfléchissez, parce qu'on dit bien que l'évêque est consacré sous la parole de l'évangile. C'est l'évangile, par la force de l'Esprit, qui ordonne l'évêque, hein. Et donc lui qui est appelé justement à annoncer l'évangile dans l'église locale qu'il doit présider, montre bien ce geste, montre bien cela. Et puis donc, On a, vous voyez à nouveau, l'usage de l'huile, du Saint-Crème, une autre endroit où on emploie le Saint-Crème. Alors, l'onction de la tête de l'évêque avec sur la tête pour l'évêque. L'onction sur la paume des mains pour le prêtre, donc ce n'est pas la tête. Il y a là une signification du ministère qu'on exerce aussi. Les diacres n'ont pas besoin d'être oints, ils sont juste, on impose juste les mains. Et puis donc, vous voyez bien qu'on remet l'évangéliaire et les insignes de l'évêque, ce qu'on avait toujours eu, la mitre, la crosse, l'anneau. Et puis, par contre, vous voyez que après l'onction du Saint-Crème, de manière très juste, je trouve le rituel, qu'est-ce qu'il va faire? On demande que, d'abord, on revêt le prêtre de la chasuble, il quitte l'habit qui était le sien en tant que diacre dalmatique, et il est habillé de la chasuble, et on va lui remettre le pain, le vin. Mais qui apporte le pain, le vin? Ce sont les fidèles qui apportent le pain, le vin. Ce sont les fidèles qui offrent l'Eucharistie. Je le répète une fois de plus. Et donc, c'est eux qui donnent la patène et le calice au prêtre pour l'ordination. Et par contre, les diacres sont revêtus de la dalmatique, leur habit liturgique, et on va leur remettre l'évangéliaire parce que ce sont les diacres qui sont les ministres censés de proclamer l'évangile. Hein, quand il y a un diacre dans l'assemblée, ce doit être le diacre qui proclame l'évangile. Et après, donc, le baiser de paix. Alors, vous voyez que là, ça se fait habituellement, normalement, c'est le baiser de paix entre évêques. Il entre dans l'ordre des évêques. Voyez? Vous vous rappelez l'idée de ordre comme groupe censé gouverner quelque chose. Ça vient de la Rome ancienne. Les chrétiens ont reçu ce type d'idée. Donc, baiser de paix entre évêques, baiser de paix entre les prêtres présents, baiser de paix entre les diacres présents. Chacun des ordonnés va rentrer dans l'ordre propre. Vous voyez? Donc, c'est pour signifier la communion de cet ordre. Après, donc, on a la continuation de l'Eucharistie selon le rituel que nous connaissons. Et dans les rites de conclusion, on a les rites que nous connaissons, mais pour l'évêque, vous voyez, le rituel dit. Le nouvel évêque peut être conduit à travers l'église, la cathédrale, pour donner à tous sa bénédiction. Alors généralement, c'est plus qu'une bénédiction, c'est une étreinte de la main, c'est un signe du visage, c'est voilà, c'est mettre en contact avec le peuple de Dieu qui est censé être administré au sens beau du terme par le nouvel évêque. Peut-être, si vous avez encore un peu le courage, je termine par un complément. Donc, ça, c'était la célébration. Si vous avez des questions, je vous donnerai le temps, comme on a pris l'habitude, de réagir, parce qu'on a dit beaucoup de choses et peut-être pas assez parfois compréhensibles. Mais je voudrais revenir au plan et je vous avais marqué les ministères institués. Alors, c'est très important. On ne peut pas penser la ministérialité seulement du point de vue de ministère ordonné. Il y a aussi des ministères institués. Et c'est très important de le souligner, surtout aujourd'hui, je vous dirais, peut-être que vous êtes au courant, ou peut-être vous ne l'êtes pas, mais sachez que jusqu'à il y a quelques années, il y avait la pratique d'instituer, avant de devenir diacre, d'instituer généralement les séminaristes, donc ceux qui étaient censés suivre un parcours de préparation à la prêtrise, de les instituer d'abord lecteurs et puis acolytes. Oui, qu'est-ce que c'est-à-dire lecteurs? Lecteurs, lire la parole de Dieu et acolytes, apporter les offrandes à l'autel, assister le prêtre qui préside à l'autel. Et donc, cette institution même si il y avait une tentative d'englober les laïcs, a été malheureusement conservée que pour les séminaristes. Eh bien, ces dernières années, le pape François, par deux lettres apostoliques, en forme de, comme on appelle, motu proprio, alors c'est simple à traduire, de sa propre volonté, de sa propre volonté, donc c'est lui qui a décidé de faire ces lettres apostoliques. Ces deux lettres ont pour objet, ont pour thème les ministères institués, des ministères. Et donc la première lettre est datée du 10 janvier 2021. 10 janvier 2021. Et cette lettre concerne l'accès des femmes au ministère institué de lecteur et d'acolyte. Vous voyez? Je reviendrai et puis on pourra en parler. Et l'autre, la seconde lettre, datée du 10 mai 2021, demande que on institue le ministère de catéchiste, le ministère de catéchiste. Alors, pour vous permettre de comprendre, souvent les réactions ou les, oui, les réactions sont celles-ci, mais les femmes ont toujours lu à l'Église, toujours, depuis le Concile. À partir du Concile, ont toujours lu à l'Église, ont toujours participé à l'apport des offrandes, voilà, ou bien ont toujours été catéchistes. Eh bien, j'insiste sur le fait que, pour modeste que cela puisse sembler, c'est très important, parce qu'une institution dit bien une collation par un rite, hein, l'idée c'est là, qu'on fasse un rite pour lequel des femmes sont reconnues aptes, et voilà, on peut dire aptes au sens qu'elles peuvent exercer cela, comme lectrices et comme acolytes. Et acolytes, ça veut dire qu'ils peuvent accéder au service de l'autel, et notamment à la distribution, de la communion. Donc vous voyez que l'idée qu'il y ait une institution marque de manière encore plus importante la place, là, du coup, de quelqu'un, dans le cas précis, ce sont des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, je vous ferme avec des hommes laïcs, hein, je veux dire. Et donc, ça ouvre aux laïcs, hommes comme femmes, l'idée de ministère institué. Et pour les catéchistes aussi, c'est-à-dire qu'ils exercent de manière instituée ce ministère, et donc que ce soit nouveau homme ou femme. La difficulté, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que naturellement, Pape dit, je promulgue ça, donc du coup, on a dû changer certains numéros du code du droit canon pour permettre cela. Hein. Mais généralement, il dit, ce sont les évêques du lieu qui doivent faire avancer cela. Et donc, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir décider quel type de rituel mettre promulgué pour ce type d'institution, comprendre comment elle peut être prévue, quelles sont les tâches que l'on donne, est-ce que c'est pour la vie, est-ce que c'est pour une période spécifique de ministère, vous voyez, tout ça, ce sont des questions encore à voir. Mais je voudrais vraiment souligner que cela ouvre, permet de tenir ouverte la porte de la réflexion sur la place des femmes du point de vue de la ministérialité. On m'a posé la question cet après-midi. Par ailleurs, et je terminerai par ça, puis vous me demanderez peut-être des clarifications. Par ailleurs, vous le savez bien, vous ne le savez pas, mais il y a une commission actuellement toujours au travail, je ne sais pas avec quel rythme, mais il y a une commission officielle qui travaille sur la question du diaconat féminin. Et donc, est-ce qu'on peut penser dans l'Église catholique romaine la possibilité d'ordonner ou de demander à des femmes d'être instituées ou ordonnées, je ne sais pas, le vocabulaire n'y est pas encore vraiment clair, des femmes diacres, en sachant que dans l'Antiquité, c'était les femmes exerçaient un rôle diaconal, notamment en ce qui concerne le rite du baptême. Et donc, il y avait des diaconesses, il y avait même l'expression de diaconesse pour certains rites du baptême, notamment, vous pouvez bien le penser, au moment où du baptême lui-même, quand il fallait immerger une femme complètement nue dans le baptistère, c'était des femmes qui devaient assister des femmes pour les accompagner dans la piscine baptismale et les recevoir à la sortie de la piscine baptismale. N'importe, mais la figure diaconale des femmes existait dans l'Église. Donc, tout ça pour dire que quand on pense ministère ordonné, ne renfermons pas la ministérialité de l'Église simplement au ministère ordonné. Pensons aussi qu'il y a beaucoup de ministères qui contribuent à la visibilité, à l'exercice même des ministères ordonnés et qui sont comme des réfractions de ce ministère ordonné dans le peuple de Dieu. Je termine là, mais je vous donne la parole. Oui, Catherine.
Encore Catherine. Alors, il
Oui,
y a quelque
oui.
chose qui me frappe un petit peu, c'est
Oui.
que, alors il y a deux choses. L'une, je suis allée récemment à une ordination, la façon dont les prêtres, enfin les futurs prêtres, se couchent complètement devant leur évêque. Je vois que l'évêque fait la même chose quand on le, au moment de
Ordonne.
la litanie, il fait la même chose, je suppose.
Quand
Devant
on
qui?
ordonne un évêque, oui, mais même, j'irai plus loin, même quand un moine doit faire sa profession monastique.
Oui.
Oui, c'est le justement, généralement, c'est un geste que l'on fait quand on s'engage pour quelque chose. On ne le fait pas pour un baptisé, pour un catéchumène, par exemple. Mais on se met à genoux, on reste debout dans un célébration de la nuit pascale. Mais effectivement, pour celui qui va être ordonné, ou ceux qui vont être ordonnés, ou pour le moine qui doit prononcer la profession monastique, généralement, le candidat se étend les mains élargies en forme de croix, en vérité, hein, par terre. Alors, c'est pas un sens, moi, je l'aperçois pas. Je veux terminer ce que vous voulez me dire, puis je réagis.
Je trouve que c'est une soumission.
Ah oui,
C'est
non,
encore
justement,
une
justement.
possibilité de soumission. Mais alors, l'évêque, il se prosterne devant qui? Devant l'archevêque qui
Non,
ordonne?
en vérité, tous ne se prosternent pas devant l'évêque, mais devant l'autel qui symbolise le
Eh oui.
Christ. Vous voyez, ce n'est pas parce que l'évêque est placé devant l'ordinant qu'il se étale, si je peux dire. Il ne se prosterne pas devant l'évêque, il se prosterne devant l'autel, qui est, comme je vous disais, le symbole par excellence du Christ. Et donc, il est en plus là, on le fait pendant qu'on chante la litanie des saints. Et donc, il y a comme une sorte de prise en compte de toute l'Église. Et donc, il y a là l'idée de s'offrir complètement, d'imiter le Christ dans ce don, vous voyez? Donc, il y a un peu cela.
Et je trouve dommage que l'évêque se mette finalement entre
Ah oui,
la
peut-être.
personne étendue et l'autel.
Oui,
S'il se
peut-être qu'il
mettait sur le
faudrait.
côté, il y aurait moins cette symbolique
Oui,
de
là,
donne
peut-être.
l'impression d'être une soumission.
Oui, là, vous insistez à juste titre sur l'importance de la manière de célébrer. C'est des petits
Des petits détails, mais
détails qui changent beaucoup de choses. Vous avez raison. Donc, peut-être qu'il faut là mettre en valeur tout de suite l'autel, comme vous dites. Et donc, l'évêque devrait se déplacer un peu et montrer qu'il y a vraiment l'autel devant l'ordinant.
et puis la deuxième chose, c'est quand on dit que le prêtre ou l'évêque sont les représentants du Christ. Pour moi, chaque chrétien, ils ne sont pas plus représentants du Christ que nous. Ils sont représentants des apôtres, éventuellement, mais ils ne sont pas plus l'image du Christ que n'importe
Alors,
quel
mais
chrétien.
c'est une belle question celle que vous posez, Catherine, parce que ça nous fait réfléchir et on peut réfléchir ensemble. Pourquoi on dit qu'ils sont les représentants du Christ? Parce que c'est un peu comme ce que je disais par rapport à la prière eucharistique. Je m'explique. Tous, théoriquement, je dis bien tous, théoriquement, nous disons la prière eucharistique, c'est-à-dire nous offrons le pain eucharistique. Et donc, ce que dit le prêtre, ce que dit celui qui préside l'Eucharistie, nous le disons. Mais je vous disais, pour des raisons pratiques, il y en a un seul qui l'a dit. Vous voyez? Pour que tous puissent l'entendre. N'est-ce pas? Et c'est pareil, je transpose cette idée-là à l'idée de pourquoi celui qui préside l'Eucharistie représente le Christ. Parce que, bien sûr, tous par le baptême, nous sommes des chrétiens, comme dit le mot, nous sommes des Christ. Mais en même temps, dans la célébration, dans l'action liturgique, il y en a un qui me rappelle que le Christ est au milieu de nous. Pas parce qu'il est plus que moi ou plus que voilà, mais parce qu'il est bien qu'il faut. Si tous nous mettions à bouger dans l'Église, qui représenterait? Vous voyez? C'est l'action liturgique qui demande qu'il y ait une unité dans la célébration. Et donc, il y en a un qui représente le Christ et donc qui symbolise. C'est l'ordre du symbole. Les orthodoxes aiment bien dire, il est l'icône du Christ. Vous voyez? C'est-à-dire au sens que c'est quelqu'un qui me fait signe, qui dit, tiens, le Christ est au milieu de nous. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'il représente plus le Christ que moi. Vous voyez? Au contraire, le ministère d'un évêque, le ministère d'un prêtre, le ministère d'un diacre
Un service.
c'est un service et
Et...
devrait me renvoyer à ma qualité de chrétien. Vous voyez? Le ministère n'est pas tellement celui d'exercer quelque chose en tant qu'évêque et diacre, mais c'est dire, il est ministre pour me rappeler que je suis chrétien. Et que je crois au Christ, et que je suis en train d'offrir l'Eucharistie, ou que je, voilà. Vous voyez, comme disait le texte du rituel, tous nous sommes baptisés, mais il y en a un qui nous rappelle cette grâce baptismale. Vous voyez? Il est vraiment de l'ordre symbolique, mais ne pensez pas symbolique comme rien du tout. Symbolique au sens fort, d'ordre sacramentel. Voilà.
Mais je trouve que ça, dans les problèmes de l'Église actuelle, ça donne une impression de pouvoir temporel du prêtre. Vous comprenez
Non,
ce que je veux dire?
là, oui, mais là à nouveau, vous, à Catherine, je pense que ça dépend de la manière dont on préside. Il y a
Oui.
aussi une manière de présider qui peut dire, voilà, il n'y a que moi, ou il y a une manière de présider qui montre une certaine union avec l'Assemblée. Mais j'insiste sur le fait que c'est normal qu'il n'y en ait qu'un seul qui préside.
Bien sûr.
Mais la finalité, ce n'est pas parce qu'il a du pouvoir qu'il préside. C'est parce qu'il doit faire ce ministère pour me rappeler le Christ au milieu des siens. Vous voyez? Ça change beaucoup. Est-ce qu'il y aurait l'une ou l'autre question? Est-ce que tout a été clair par rapport à la célébration?
Moi, j'ai une question.
Oui. D'abord Bernadette et puis Pascal, vous avez commencé ensemble, mais je voyais Bernadette presque au fil de l'arrivée.
Juste par rapport au diacre, vous avez donc fait allusion que ça pouvait être un diacre qui est voué au célibat et un diacre qui est marié, à qui on demande à l'épouse. Est-ce que ça peut être cet engagement peut être fait lors de la même célébration ou ce sont deux célébrations différentes?
Alors, non, ça peut arriver. Hein, je pense que ça peut arriver qu'au milieu de plusieurs candidats au diaconat, il y en ait qui décide d'être, qui est déjà marié, donc
Oui.
qui sera accompagné de son épouse. Et peut-être que parmi les diacres permanents, il peut y avoir ceux qui, tout en étant diacre permanent, demandent de rester dans le célibat. Vous voyez?
D'accord,
Mais
c'est possible.
généralement, je ne sais pas, écoute, il faudrait vérifier. Je crois que par commodité, un diacre destiné à la prêtrise, généralement, vous voyez, l'ordination des
Séparément quand même.
séminaristes, ça se fait à la cathédrale autour du mois de juin, généralement. Et on recueille, on rassemble tous les possibles candidats au diaconat, au presbytère, vers le presbytère. Et donc, les ordinations de diaconat permanent, je dis bien diaconat permanent, peut-être que dans une ordination de diaconat, de diacre permanent, il peut y avoir les deux cas de figure, ou de marié ou de célibataire.
D'accord.
Je dis
Merci.
bien de diaconat permanent. Oui, cet après-midi, j'ai souligné que l'expression diaconat permanent est assez pas très juste, vous entendez, elle est un peu bancale, excusez-moi l'expression. Pourquoi on a dû employer dans l'Église catholique romaine l'expression diaconat permanent pour le distinguer du diaconat qui va vers la prêtrise, voyez? Permanent, pourquoi? Parce que, voyons-le de manière un peu négative, parce qu'il ne pourra jamais être appelé à la prêtrise. Voyez? Donc il garde en permanence son diaconat. Mais j'ai un confrère qui est diacre tout court, pas permanent, mais qui est tout simplement diacre, et qui dit toujours un peu en souriant, eh ben alors du coup, je vais appeler maintenant les prêtres des prêtres permanents. Il n'y a pas besoin de dire que les prêtres sont permanents. Mais voyez, on a eu du mal, en redécouvrant le diaconat, à le définir. Hein? C'est à cause du fait que chez nous, les catholiques, un prêtre ne peut pas se marier. Et donc, du coup, il est évident que ceux qui sont mariés ne peuvent être que diacres pour le moment.
Un diacre célibataire ne peut pas se marier.
Bien sûr, s'il décide de vivre son diaconat, s'il veut, lui, il peut exister, hein, de vivre son ministère dans le célibat, il peut le faire. Mais il doit le dire avant quand même. Il y a une règle de l'Église très ancienne. On reste dans l'état dans lequel on a été
Ouais,
ordonné.
c'est ça.
On reste dans l'état dans lequel on est ordonné. Ce qui fait, alors, un peu pour vous faire sourire, je racontais cette anecdote au groupe de cet après-midi dans mon monastère. Donc à Lérins, on avait accueilli un orthodoxe bulgare et qui était séminariste et qui, dans un moment comment dire, d'échange, nous avait dit, ah, vous savez, je repars en Bulgarie pour me marier. Après, je serai ordonné prêtre pour chercher une femme. Puis je serai ordonné prêtre. Alors, tout le monde a ouvert les yeux, comme vous dites, où sommes-nous? Mais effectivement, c'est comme ça. Parce que si, dans l'orthodoxie, si quelqu'un ne se marie pas et il devient prêtre, il ne pourra pas se marier une fois ordonné. Et donc, c'est pareil pour nous, pour le diaconat, pour un diacre qui déciderait de rester célibataire, il ne pourra pas se marier par la suite. Oui, il y avait Pascal.
Oui. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a, avec l'ordination, on a à la fois un mélange, je dirais pas un mélange, une association des institutions romaines et de la lignée sacerdotale des Juifs de l'Ancien Testament.
Oui, en quel sens?
Parce que moi, on m'a toujours dit que les prières d'ordination étaient surtout tirées de l'Ancien Testament.
Oui. Alors, pas tout à fait, mais je comprends ce que vous dites. Ce que vous
Mais
dites, je peux.
c'est Joseph Moin qui disait ça par rapport aux prières d'ordination.
Comment?
C'est
C'est. Ah,
Joseph Moin qui
Joseph
disait ça.
Moin. Vous
Ouais,
savez,
ouais.
parce qu'effectivement, quand on les écoute, alors il faut distinguer les deux choses. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, il est évident, nous l'avons entendu, que la manière dont le rituel est fait, c'est très romain. Ça, c'est tout à fait vrai. Il remonte à cette idée de l'imposition des mains, très sobre, comme ça. Les prières elles-mêmes sont tirées là aussi de la tradition apostolique que nous avons rencontrée pour voir l'évolution de l'ordination, des ordinations, et peut-être peut faire rappeler ça, tout simplement parce qu'il fait l'anamnèse, le mémorial de la manière dont Dieu s'est choisi des prêtres, vous voyez? Alors, je lis, et donc, effectivement, alors on dit, elle vient de l'Ancien Testament. Non, elle vient d'un formulaire, peut-être du 4e siècle chrétien, mais qui prend comme objet, pour voir la tradition de cette grâce qui vient de Dieu, passant par l'Ancien Testament, arrivant jusqu'au Christ, aux apôtres et à nous aujourd'hui. Voyez,
D'accord.
Donc, ça peut faire penser à l'Ancien Testament, c'est plutôt de l'ordre d'une tradition, vous voyez? Donc, on nomme effectivement les patriarches, les prophètes, vous voyez donc. Mais c'est parce que on fait entendre que Dieu, il y a l'action de Dieu qui vient de loin pour cette ordination qui a lieu aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de vision vétérotestamentaire en tant que telle. Mais dans les prières, on nomme beaucoup,
Oui.
effectivement, l'Ancien
Parce
Testament, mais dans cette idée de la tradition.
D'accord, merci.
Il y avait Claire.
Voilà, je mets mon micro. J'avais une petite question en
Est-ce que
lien
vous pouvez
avec
ouvrir, est-ce que vous pouvez ouvrir la
dans les
caméra? Est-ce que vous pouvez aussi ouvrir la caméra? Si vous pouvez.
En fait, je ne suis pas très
Pas à l'aise.
visible.
Alors, on vous entend.
Ah, je suis visible, c'était un petit peu le problème.
Oui.
Voilà. dans les congrégations religieuses, lorsque un frère accède à la prêtrise, est-ce que c'est toujours l'évêque également qui préside l'ordination? Enfin, c'est l'évêque ou est-ce que c'est le supérieur de la congrégation?
Tout à fait. Bonne question. Alors déjà, cela me permet de vous dire qu'effectivement, donc vous savez que pour ne pas vous compliquer les affaires, il y a généralement dans les ordres religieux, il y a les ordres contemplatifs, comme les moines, comme moi par exemple, et puis il y a les ordres plutôt prêcheurs, apostoliques, voyez, comme je donne l'exemple, les dominicains et les franciscains sont des ordres apostoliques de prêcheurs, voilà. Alors que les moines cisterciens ou bénédictins, ce sont des ordres contemplatifs. Dans les deux cas, je dis bien dans les deux cas, quand ils sont ordonnés, s'ils sont appelés à devenir prêtres pour la vie monastique, pour le besoin de la communauté, parce qu'ils n'exercent pas de ministère en tant que tel dans le monastère, aux fidèles. Par contre, les franciscains, les dominicains, les ordres apostoliques doivent exercer à l'extérieur. Ils sont nés pour ça. Dans les deux cas, c'est l'évêque du lieu qui doit ordonner les candidats. Donc, effectivement, et ça, c'est très important. Est-ce que vous le comprenez pourquoi? Parce que tout ministère presbytéral ou diaconal, et toujours, même si on l'exerce tout au fond d'un monastère contemplatif, est toujours en lien avec l'église locale, via l'évêque qui préside à l'église locale. Et donc, ce qui fait que les moines, par exemple, je prends l'exemple extrême, même un chartreux, par exemple, qui est tout le temps fermé dans sa cellule, sera ordonné par l'évêque du lieu. L'abbé, dans le cas précis de monastère, n'est pas évêque, n'est pas évêque, il est abbé, voilà. Par contre, il ne reçoit pas une ordination abbatiale, mais il reçoit une bénédiction abbatiale. Cette bénédiction abbatiale, comme dit le mot, n'est pas un sacrement.
D'accord.
C'est un sacramental. Donc, il ne peut pas ordonner.
Oui, entendu. D'accord, je comprends. Merci.
Merci. D'autres questions? Ah ben, c'est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, là, nous sommes à 27. Je vous propose presque à 30. On prend 10 minutes de repos et puis on va reprendre, introduire l'onction des malades. Et on va terminer la soirée avec l'évolution de l'onction des malades ce soir. Voilà. Donc on se retrouve à 40. J'ai bien calculé, n'est-ce pas? Très bien. Merci, à tout à l'heure.
Merci.
Voilà, nous reprenons notre cours. Et donc, nous sommes en train de suivre l'ordre des sacrements et nous allons donc considérer ensemble l'onction des malades, en sachant que donc, je vous rappelle, ce soir, c'est l'avant-dernier cours parce que mardi prochain, ce sera le dernier au cours de la Semaine Sainte, le mardi de la Semaine Sainte, et nous terminerons par les funérailles. Et naturellement, le début du cours sur l'onction des malades va vous montrer qu'il n'y a aucune volonté de mettre côte à côte les uns les autres, mais plutôt de montrer comment les funérailles sont presque en forme de chiasme, répondent au moment de la naissance et du baptême, et sont comme l'achèvement de la vie chrétienne au sens beau du terme, et même s'ils ne sont pas un sacrement, les funérailles ont une valeur sacramentelle très importante. Mais là, nous terminons par l'ordre des sacrements, les sept sacrements. L'onction des malades, le septième des sacrements indiqué donc par la tradition catholique, mais aussi orthodoxe, hein, qui peut-être l'appelle simplement l'onction, sans y ajouter des malades. Et donc, je vais vous partager le plan tel qu'il était envoyé. Voilà. Je vais chercher. Voilà. Donc, le plan veut vous montrer, comme nous l'avons fait ces derniers temps en tuilant les différents sacrements, ce soir, je vous propose de prendre en compte, notamment, bon, mise en perspective de ce que nous voulons dire, et puis montrer rapidement l'évolution que ce geste sacramentel a connu dans l'histoire pour arriver au seuil du Concile Vatican II. Nous allons reprendre de là mardi prochain et rentrer dans l'intelligence du rituel lui-même. Et donc, je commencerai par un constat qui est quasi sociologique, si vous voulez, et réfléchir sur le rapport de l'homme à la maladie dans une perspective historique et même donc du coup sociologique, et vous faire remarquer que jusqu'à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, la maladie est uniquement définie du point de vue subjectif. En effet, on estime la gravité du mal d'après l'état où est réduit le malade. Souvent, à ces époques-là, le malade est très jeune. On pouvait être malade très, très jeune. Et donc, en raison de la durée habituellement brève de la maladie et l'absence de traitement spécifique, le malade est soigné à la maison. Il n'y a pas l'idée de éloigner le malade de la maison. Le malade en tant que tel ne connaît pas l'épreuve de la séparation ou de la solitude ou de l'isolement. Par contre, on constate toujours dans cette évolution historique qu'au XXe siècle, particulièrement au cours de ces 50 dernières années, marquées par un extraordinaire développement de la médecine, de la chirurgie, des spécialisations et des centres hospitaliers, eh bien, on constate que cette évolution-là même de la médecine conduit à une situation nouvelle et entraîne au plan social et culturel d'importantes conséquences. La maladie, du coup, est devenue une des préoccupations les plus importantes et parfois même les plus angoissantes dans notre société et pour l'homme contemporain. Et parfois, la maladie devient un état de vie prolongé ou simplement permanent. Et c'est pourquoi aujourd'hui la maladie n'a plus comme autrefois d'étroite connexion avec la mort. Voyez, on peut rester malade longtemps sans penser qu'on va tout de suite mourir quand on est malade, n'est-ce pas? Et donc, si on pouvait poser une problématique théologique, c'est justement celle-ci, si la maladie n'amène pas nécessairement à la mort, comment investir du point de vue théologique cette maladie? Comment on peut considérer la maladie? Quelle est la place du sacrement de l'onction dans cette vision qui a changé un peu la donne quant à la pratique de l'onction des malades en tant que telle? Et donc, de manière un peu rapide, je voudrais un peu vous donner quelques repères historiques, voir comment l'onction des malades donc a pu évoluer au cours de l'histoire, et commencer justement par les données bibliques, avec un constat que nous avons pu remarquer justement ces temps de carême où les évangiles, assez souvent, surtout au début du carême, nous parlaient de Jésus guérissant les malades et donc étant vraiment la guérison par Jésus étant le signe de l'événement du royaume de Dieu. Jésus guérit les malades pour montrer que le royaume de Dieu est déjà là. Et donc, il y a comme une sorte de vision quasi eschatologique de bonheur par la guérison des malades. Eh bien, Jésus vient par là signifier que sa résurrection va apporter la vie et donc que la maladie n'est qu'un passage, comme peut l'être effectivement la mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer, c'est toujours dans l'expérience du Christ, que le Christ écarte la conception éthique de son époque, donc une conception éthique juive, donc, qui attribuait à une faute l'origine de la maladie. Je vous renvoie là à l'évangile de l'aveugle-né. Ceux qui ont suivi l'avancement des catéchumènes se préparant à Pâques ont dû lire ou entendre l'évangile de l'aveugle-né, donc de l'évangile de Jean au chapitre 9, là où vous vous rappelez, face à l'aveugle-né, les interlocuteurs interrogent Jésus avec une sorte de piège. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché, voyez, face à la maladie, à la condition d'aveugle? Et Jésus écarte cette idée-là, cette tentation de lier un état de difficulté ou un état de maladie comme étant à l'origine comme ayant à l'origine le péché. Et il dira plutôt, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, en voyant déjà la guérison et la situation nouvelle pour l'aveugle-né. Pareillement, les communautés chrétiennes primitives suivent l'expérience du Christ et prolongent les gestes de guérison de Jésus, affirmant ainsi la présence du royaume et mettant en évidence la force libératrice du Christ ressuscité par la guérison. Alors nous entendrons après Pâques les récits des Actes des apôtres, dans lesquels on voit les apôtres, à la suite du Christ, guérir les malades, hein, guérir les malades, comme une annonce déjà du royaume qui est venu par la résurrection du Christ. Et entre autres, dans les écrits néo-testamentaires, on constate que Paul présente, entre autres, le charisme, le don de guérison, comme un service pour l'édification de la communauté. Mais c'est surtout le texte de la lettre de Jacques au chapitre 5, 14 à 16, versets 14 à 16, qui va devenir le centre de la réflexion chrétienne par la suite concernant l'onction des malades, là où Jacques est déjà témoin d'un geste d'onction et d'une prière que l'on fait sur les malades quand au milieu de la communauté, il peut y avoir des malades. Cela, c'était pour montrer les fondements bibliques, scripturaires, d'une pratique qui vient du geste originaire du Christ, qui passe à la communauté chrétienne et qui va rentrer dans la tradition liturgique. Et donc là, nous pouvons constater cinq, en gros, hein, cinq périodes. Désormais, vous êtes vous-même habitué à lire ces périodes, les périodes des origines chrétiennes, une évolution de ces mêmes origines, un clivage peut-être qui va se créer à partir du Moyen Âge, et puis peut-être une volonté de revoir ces gestes après, au XXe siècle, notamment grâce à l'événement du Concile Vatican II. Mais qu'est-ce qu'on peut constater, par exemple, dans la première période entre le premier et le quatrième siècle? On constate que ces premiers siècles se caractérisent par un manque relatif de sources explicites et directes sur le sacrement des malades. Il n'y a pas, au vrai sens, un sacrement des malades. Mais par contre, parmi les sources liturgiques, celle qui peut être la plus intéressante pour nous, c'est à nouveau celle qu'on appelle la tradition apostolique, que nous avons déjà rencontrée pour le sacrement du baptême, pour le sacrement de l'ordre. Et là encore, la tradition apostolique est témoin justement d'une consécration de la part de l'évêque, une consécration d'huile de la part de l'évêque au cours de l'Eucharistie. Et donc, cette huile, entre autres, il est recommandé à l'évêque qu'il puisse la porter aux malades pour les soigner. Donc, vous voyez l'idée, quasi à la suite de la lettre de Jacques, d'une mise en œuvre déjà, je dirais, à partir du 3e à 4e siècle, de cette pratique qui revient à l'évêque lui-même d'attention, de souci pour les malades à travers cette huile qui est consacrée au cœur de l'Eucharistie. Par contre, entre le 5e et le 7e siècle, le témoignage d'une pratique liée à cette huile devient de plus en plus, les témoins deviennent de plus en plus nombreux et il s'agit encore de formules de bénédiction de l'huile, de formules de bénédiction de l'huile. Ces textes que l'on retrouve à cette époque-là sont en continuité avec la tradition apostolique et ils insèrent la formule de bénédiction de l'huile à l'intérieur de la prière eucharistique. Donc, vous voyez, l'huile pour les malades est tellement importante qu'on l'insère, un peu comme le pain, comme le vin, à l'intérieur de la prière eucharistique. Et d'autres sources soulignent cette pratique de l'onction pendant ces siècles. Ce qui est intéressant, c'est que toujours dans cette période, on a des témoignages qui nous disent que les fidèles malades peuvent être oints avec le Saint-Crème. Donc, vous voyez, pas seulement avec de l'huile quelconque, mais avec le Saint-Crème. Et le Saint-Crème est consacré par l'évêque. Et il est permis, à cette époque, non seulement aux prêtres, mais aussi aux fidèles, d'employer cette huile, de pouvoir soindre eux-mêmes et D'autres peuvent oindre les malades, d'autres laïcs peuvent oindre les malades de la famille, du groupe familial, des proches. Hein. Donc, vous remarquez l'importance, là, du coup, pas de l'ouverture, mais de la pratique, du coup, qu'on constate de l'usage de l'huile de la part des laïcs eux-mêmes. Par contre, entre le 8e et le 12e siècle, nous sommes dans le haut Moyen Âge, et donc du coup, nous approchons vers le 12e siècle, les caractéristiques de la reprise de la théologie sacramentaire, et entre le 8e et le 12e siècle, on voit des sources encore plus nombreuses qui, effectivement, montrent que le centre de gravité du sacrement n'est plus la bénédiction de l'huile. Vous voyez, jusque-là, maintenant, vous avez entendu ce qui était important, c'était la bénédiction de l'huile par l'évêque qu'on apportait aux malades, mais c'était la bénédiction de l'huile qui était importante. Alors que là, ce qui devient important désormais, c'est l'administration de cette huile. Le fait d'administrer l'huile. Et à cette époque, justement, à cause de cette importance que l'on donne à l'administration de l'huile, on voit naître les premiers rituels. Les premiers rituels, et donc qui se caractérisent par une grande variété de prières. Et du coup, quand on dit prière, rituel, on dit naturellement intervention des prêtres. Le rôle désormais pour cette onction est réservé aux prêtres, hein, et le clerc assume donc un rôle de plus en plus déterminant dans le fait de donner l'huile des malades. Et on peut même remarquer qu'à partir du 10e siècle, on envisage désormais l'huile et le geste de l'onction comme signifiant la purification du mal. Donc, vous voyez, donc l'huile est là pour montrer la purification du mal, et l'évolution dans ce sens-là, la plus importante et plus significative, se fait par le déplacement du rite de l'onction vers le moment de la mort. Vous voyez? Quand on dit guérir du mal, le mal le plus grand, c'est la mort, et donc l'onction va être déplacée vers le moment de la mort, et ce glissement se généralise et cause désormais l'association avec la pénitence et la confession au moment de la mort. Et le viatique, c'est-à-dire le fait de faire communier à l'Eucharistie. Et donc, nous sommes là, désormais l'arrivée de ce va appeler désormais depuis cette époque l'extrême onction. Vous voyez pourquoi extrême onction? Parce que c'est la dernière et celle qui accompagne le trépas, la mort de celui qui la reçoit. Entre le XIIe et le XVIe siècle, entre la théologie scolastique, l'époque de la théologie scolastique et le début du Concile de Trente, la tendance est celle d'ajouter l'onction au sacrement de pénitence, comme on vient de l'entendre. Donc, de là, ça va se consolider, cette action. Et d'ailleurs, effectivement, on voit bien que la théologie va réfléchir sur ce sens-là, et la théologie s'oriente vers un type unique de rituel qui contient des rites en vue de la mort. Et donc le rituel va se définir par cet ensemble de rites qui sont l'onction de la confession, l'onction du malade et la communion. Et donc, c'est le Concile de Trente qui va consacrer ce point d'arriver. Et effectivement, désormais, le Concile de Trente va promulguer un rituel destiné à l'usage du prêtre et effectivement où le sacrement de l'extrême-onction, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle à cette époque, sera le sacrement qu'on apporte à celui qui est en train de mourir et qui est décliné en trois moments spécifiques, la confession, l'onction et la communion. Donc, vous voyez, donc, on a là l'idée que c'est l'extrême geste, le viatique, tous ces termes-là disent quelque chose de la fin de la vie. Je vous fais aussi remarquer que notre imaginaire, je crois que j'ai jamais vu ça enfant, mais parfois on pouvait entendre les campagnes, la clochette de l'enfant de chœur accompagnant le prêtre pour avertir que le prêtre était en train d'apporter le viatique à un malade. Alors on disait, où est celui qui est en train de mourir, pas où est le malade, vous voyez? Donc du coup, on a vraiment cette idée. Nous verrons que la prochaine fois, le Concile, compte tenu de ces évolutions que nous avons décrites vraiment de manière rapide tout au début pour poser le questionnement, eh bien le Concile Vatican II va déplacer cette vision d'un sacrement qui est destiné simplement pour la mort, mais au contraire, va investir l'épreuve de la maladie comme un lieu de vie, au sens qui peut devenir un lieu de consolation par cette onction, et donc ouvrant la perception de la célébration de l'onction des malades comme une célébration et pas comme un geste unique. Du coup, nous verrons comment le rituel actuel permet peut-être d'être étalé dans le temps d'une personne et d'être ponctué par des étapes. Un peu comme le rituel d'initiation chrétienne des adultes, vous voyez. Il y a là une ritualité diffuse qui devient une sorte de processus de ritualité et de vie chrétienne dans une situation spécifique comme celle de la maladie. Mais nous le verrons la prochaine fois. Je vous laisse la parole s'il y avait l'une ou l'autre question de compréhension de ce que je viens de dire. Tout était clair. Parfait. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à mardi prochain.
Avec
Mardi
plaisir.
prochain.
Merci
Nous allons
beaucoup.
continuer ce que nous avons
Merci.
commencé. Et belle fête
Bonsoir.
des bons dimanches de Rameaux.
Oui.
Merci.
Merci.
Voilà.
Merci
À
à vous
vous aussi.
aussi.
À
Merci.
bientôt. À
Au
mardi.
revoir, Catherine.
Mardi.
Au revoir.
Au revoir,
Au
Bernadette.
revoir.
Au revoir.
Joyeuse Pâques.
On se le
À vous
dira, on
tous.
se le
Oui,
dira.
on va se le redire.